Pour en parler, autour de moi, Emmanuel Gabilleri, que vous avez eu donc hier, qui nous éclairera par sa pensée de philosophe, puis par son contact avec le monde du travail, qui donne de mettre en dialogue justement la réflexion du philosophe avec l'action concrète des entrepreneurs. À ma gauche, Bernard de la Portalière aussi, que vous avez eu hier, donc DRH dans diverses entreprises depuis quelques années, et qui donnera plutôt l'aspect concret des choses, l'action, comment, qu'est-ce qu'on peut faire, les possibilités d'ailleurs, présentées par lui. Et tout à ma gauche, il n'a pas encore été présenté, frère Jean-Thomas de Borgard, donc dominicain de son état, de son habit, l'habit fait le moine pour le coup. Il est frère à Bordeaux, diplômé de Sciences Po, depuis ayant fait une licence canonique en philosophie et en théologie, et puis venant d'achever, on espère très bientôt, il pourra soutenir sa thèse en théologie et en ecclésiologie plus particulièrement, à partir notamment d'une étude de l'ecclésiologie de Vatican II, sur l'Église comme sacrement du royaume. Donc il nous donnera un éclairage plus théologique, notamment à partir de ce que l'on peut voir des textes. Merci beaucoup d'avoir bien voulu répondre à cette invitation, à vous trois, à ce dialogue. Et donc, pour commencer, on a vu notamment avec la conférence, par exemple, de Nicolas Bavrez, avec cette place du chômage, on voit qu'il y a... il y a quelque chose quand même à faire. Il propose un certain nombre de solutions, mais on voit que les choses fonctionnent à peu près. Il y a des bonnes choses dans le travail qui fonctionnent, et il y en a d'autres où on sent les limites. Voir la montée des extrêmes peut montrer un certain ras-le-bol qui vient entre autres de ce qui se passe mal dans le monde du travail. On va prendre le regard chrétien. Et donc, vous voyez qu'il y a cette question de l'agir chrétien. J'aimerais vous poser à chacun d'entre vous, justement, comment, pour commencer, pour placer les choses, avant d'aborder la question de renverser, réformer, comment on qualifierait l'agir chrétien, justement, en entreprise ou dans le monde du travail? Comment on pourrait situer cela? Peut-être commencer avec Bernard, à ma gauche.
Merci pour le démarrage. Alors, autant hier, c'était à peu près évident pour moi de me dire, bon, j'ai quelque chose à dire sur le thème qui m'était donné. Aujourd'hui, je me suis dit, c'est quand même un peu plus compliqué pour moi, avec en plus l'audience que j'ai à côté de moi. Et en fait, ce que je me suis dit, moi, je vais répondre un peu plus, enfin, très simplement sur le sujet. En fait, déjà, moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment une segmentation à faire entre la vraie vie et la vie du travail. Je prône une certaine unité, hein, et donc pour moi, l'agir chrétien, il se fait là où on est. Hein, donc, or, on passe la plupart de notre temps au travail. Hein, on voit souvent plus nos collègues que nos familles. Hein, et donc, pour moi, le premier point d'agir chrétien, il est assez simple. C'est moi, je suis un. Et c'est pour ça que moi, dans l'entreprise, tout le monde sait que je suis catholique. Or, en plus, moi, j'ai un poste. Je suis DRH. J'ai les syndicats en face, j'ai les postes. Moi, j'ai un poste qui est assez exposé en termes de valeurs et en termes de fonctionnement. Moi, dans l'entreprise, tout le monde sait que je suis catholique. Et c'est assumé et c'est important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand on est chrétien, il n'y a pas de valeur hein, par rapport à ceux qui ne le sont pas, ceux qui ont d'autres obédiences ou pas. Enfin, tout est possible dans les mondes. Il y a des très belles valeurs chez les athées, chez les gens. Par contre, ça oblige. Moi, je considère que agir chrétien dans l'entreprise, ça donne une obligation. On peut pas traiter un sujet de la même façon. On va le traiter avec une patte différente et une façon de faire, et qui est importante. On peut le faire bien ou mal, ça c'est pas le sujet. On peut être compétent, incompétent ou pas. Par contre, l'intention qu'on doit le faire, elle doit être avec une vision chrétienne, de réconcilier un peu avec ses valeurs, qui sont parfois dites humanistes dans l'entreprise. Je vais prendre un exemple. J'ai travaillé dans une boîte communiste anticléricale. En fait, j'ai super bien travaillé avec eux. Parce que quand on n'était pas sur l'anticléricalisme, on n'était pas sur l'anticommunisme, en fait, on retrouvait des valeurs où on voulait que l'homme progresse, soit bien dans son environnement, qu'il y ait une forme de partage des choses, et pour faire un écho à guerre, il y a une forme de communion. Donc, moi, l'important, c'est ça de faire. Et le truc qui est génial, vraiment génial quand on fait ça, c'est que, alors il y a un inconvénient et un avantage. Je vais aller vite sur l'inconvénient, c'est il faut être courageux. C'est-à-dire que il faut être aligné en entreprise, donc il faut être courageux. L'entreprise vous envoie des paradoxes qui sont pas totalement à d'équerre avec une foi chrétienne et des choses comme ça. Donc il faut être courageux. Moi, ça m'a jamais trop gêné, mais ça prend qu'on prend quelques couteaux dans le dos ou on a quelque chose. En revanche, ça apporte énormément. D'abord, on est meilleur en management, on est meilleur en communication, on est meilleur avec les hommes, donc vos équipes vous le rendent. Et puis, vous avez des moments infinis de géniaux. J'ai juste une anecdote pour dire, agir chrétien, et c'est vraiment factuel, hein, c'est-à-dire, une salariée est venue me voir en disant, bah, je sais que t'es catho, je suis très embêté parce que j'ai mon fils de 11 ans, ou 6e, je sais pas quel âge c'est exactement, mais dans ces eaux-là, il va pas le dimanche, il veut pas aller jouer au foot, il va à l'église. Et je suis très embêté. Et bah, je sais que t'es catho, qu'est-ce que je fais, machin. Et puis, il me demande le baptême. Bah, voilà. Donc, j'ai fait mon premier baptême. Je viens de dire, vous allez voir, avec un argument théologique de haut vol, ben je lui dis, écoute, c'est simple. Ton fils, il adorait jouer au foot. Ton concubin, il traverserait la France pour lui faire faire des matchs de foot pour qu'il devienne le Mbappé du foot. Oui, oui. Et ben là, c'est pareil. Ton fils, il demande d'être le premier servant de Dieu, ou des choses comme ça. Ah bon? Ah ben, j'avais pas vu ça comme ça. Ok, ben on va le faire baptiser. Donc, si vous voulez, ça, si j'avais pas été agi chrétien et assumé pleinement avec mes faiblesses, mes forces, voilà. Après, la contrepartie, c'est que parfois, on vous donne dans la tête, bah, t'es catho, tu devrais pas agir comme ça. Tu devrais pas licencier. Bah, en fait, même dans le licenciement, vous pouvez agir catho. Je crois que je l'ai dit hier, mais quand je licencie, je veux que les gens, à la fin, je vais tout faire pour qu'ils me disent merci. Parce que je vais leur donner des clés, je vais leur donner des choses, et je vais tout mettre de moi pour qu'ils soient traités dignement dans une période qui est difficile et qu'ils puissent rebondir de la façon de faire. Donc voilà. Donc moi, le devoir agir, en fait, c'est, voilà. Là où on est, on doit le faire. Voilà. Et dans les temps qu'aujourd'hui, on reviendra sur la deuxième question, voilà. Il faut être courageux. Ce qui est un peu, on thème un peu la deuxième question.
Merci beaucoup, Bernard. Est-ce que du coup, ça fait écho, à ce que l'Église peut renvoyer, justement, frère Jean-Thomas?
Alors, bon, il y a une première chose, c'est que, d'une certaine manière, le regard d'un théologien est presque un peu décalé sur cette question-là, puisque, que ce soit au Concile Vatican II ou dans le Magistère ultérieur, on ne cesse de dire que la question politique et la question d'une manière générale du soin de la cité, c'est l'affaire des laïcs. Et je crois que c'est une première chose qu'il faut dire, c'est que, bien sûr que les théologiens, les prêtres, sont là pour éclairer, pour donner un certain nombre de critères qui aide la conscience chrétienne à prendre des décisions et à agir dans le monde, et dans le monde du travail en particulier. Mais à la fin des fins, il y a une responsabilité des laïcs qui ne doit absolument pas être déléguée. Et parfois, il y a peut-être une tentation, parce que il y a eu historiquement une église forte avec un nombre de prêtres important et avec une influence cléricale importante, il y a une tentation chez le laïc chrétien, même engagé, même extrêmement fervent, que, au fond, de renvoyer la balle aux ecclésiastiques. Il faut que ce soit le prêtre ou l'évêque ou etc. qui me dise feu vert, feu rouge, qui me dise ce que je dois faire, quand je dois le faire et si je dois le faire. Ben non. Vous avez tous largement les moyens intellectuels, d'ailleurs parfois plus que vos curés, pour décider en conscience. Vous avez des lieux comme ici pour éclairer votre conscience, et ensuite c'est à vous de prendre vos responsabilités. Donc ça, c'est peut-être la première chose à dire, qu'il n'y a pas à substituer d'une certaine manière les clercs aux laïcs dans cette responsabilité-là. Ça, c'est une chose importante. La deuxième chose, c'est que je crois qu'il y a deux sujets dans la question. La première, Bernard a un peu abordé les deux, c'est qu'il y a la question du témoignage évangélique que l'on donne dans l'entreprise et qui suppose en effet de ne pas se cacher. Il ne s'agit pas nécessairement d'arriver avec une Bible tous les jours à son travail et de dire aux autres salariés « convertis-toi et crois à l'Évangile ». ça peut peut-être fonctionner, mais il est probable que ce soit un peu contre-productif. En revanche, simplement dire ce que l'on est et dire ce que l'on fait. J'ai pris cet exemple-là des milliers de fois, mais Sébastien disait ça un petit peu hier. Simplement, quand on est chrétien et que on s'en va à la pause de midi parce qu'on va à la messe, ben dire qu'on va à la messe, point. C'est tout. Pas dire il faut que tout le monde m'accompagne ou etc. Pas le claironner sur les toits, mais dire ce que l'on fait, dire ce que l'on est, ce qui effectivement oblige après coup. Et finalement, c'est pas mal, ça oblige à se situer à un certain étiage moral compte tenu du fait que on n'a pas caché ce que l'on est. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est peut-être plus difficile, d'une certaine manière, qui est d'agir chrétiennement dans notre travail. Et ça, c'est un peu différent, je dirais. Le témoignage, ça demande du courage, mais au fond... ça ne demande pas nécessairement une grande réflexion et un grand discernement. On a à se contenter d'être ce que l'on est, de dire ce que l'on est, etc. Bon. Agir chrétiennement dans le cadre professionnel, ça me paraît beaucoup plus difficile. Non pas que ce soit impossible, mais ça demande un discernement de tous les instants. Et là, c'est la raison pratique qui intervient, en effet, et qui fait que le théologien, d'une certaine manière, peut donner là aussi quelques éclairages un peu en surplomb, mais ça remplacera jamais la réflexion qui fait que dans telle situation donnée, il n'y a jamais une manière chrétienne de faire. Il y a des manières parmi lesquelles on essaie de faire la meilleure possible ou la moins mauvaise, mais il n'y en a pas une qui soit une solution technique apportée par l'Église. Je ne sais pas si ça répond totalement.
Merci beaucoup. En effet... Emmanuel, vous avez travaillé quelques laïcs, notamment, je vous laisse répondre aussi à cette question de l'agir chrétien, que ce soit d'ailleurs l'agir de chrétiens ou de gens aux marges de la chrétienté, vu que vous avez travaillé Simone Veil, peut-être que vous aurez à parler d'elle dans cette relation au travail.
Oui, ce que je veux dire va s'articuler, je pense, assez bien à ce qui vient d'être dit, à la fois sur le plan des vocations laïques, et puis sur le plan de l'ouverture aux questions plus pratiques, qu'on va approfondir ensuite. Moi, quand j'ai été sollicité par la table ronde par Frère Maxime, j'ai pensé tout de suite à une intervention que j'ai été amené à faire il y a quelques années à l'Université grégorienne à Rome sur les vocations laïques au XXe siècle. Et j'avais proposé de conjuguer Maurice Blondel, Jacques Maritain et Simone Veil, qui sont des philosophes qu'on ne met pas souvent en corrélation, mais qui, sur ce thème de la vocation à la sainteté dans le monde laïque, se rejoignent très profondément. Et pour ouvrir l'échange, je voudrais juste citer deux textes, l'un de Simone Veil, justement, et l'autre de Jacques Maritain, mais qui se rejoignent sur cette idée que, je résumerai volontiers ainsi, au XXe siècle, il me semble que le type de sainteté qui se cherche et qui se réalise de plus en plus, c'est celui qui dépasse l'opposition souvent classique, aussi bien dans le monde clérical que dans le monde laïciste, entre la vita activa et la vita contemplativa. Ou bien on a une vocation contemplative, religieuse, ou bien on a une vocation dans le monde laïque, et les deux ne peuvent pas du tout s'articuler. Et en fait, on trouve chez ces auteurs la volonté de dépasser cela, parce qu'on n'est pas d'un côté un homme de prière et d'un autre côté un homme d'action. On est un homme qui à la fois prie et agit, prie et travaille, hein, ora et labora, on l'a rappelé hier, etc. Et donc voilà, il y a deux textes que je voudrais donner qui me paraissent très expressifs de cela. Simone Veil, pendant la guerre, écrivait ceci: « Je n'aime pas la manière dont les chrétiens ont pris l'habitude de parler de la sainteté. Ils en parlent comme un banquier, un ingénieur, un général cultivé parlerait du génie poétique, une belle chose dont ils se savent privés, qu'ils aiment et admirent, mais qui ne songerait pas un instant à se reprocher de ne pas posséder. Il me semble qu'en réalité, la sainteté est, si j'ose dire, le minimum pour un chrétien. Le minimum parce que la sainteté parfaite, c'est le Christ, et personne ne peut s'identifier au Christ, donc tous les degrés de sainteté sont en dessous, et il faut viser le degré le maximum sans pouvoir s'identifier à Dieu. Mais, ajoute-t-elle, une conspiration aussi vieille que le christianisme, et de siècle en siècle plus forte dans une modernité qui oppose amor mundi et amor dei, comme le dit une certaine philosophie contemporaine, travaille à cacher cette vérité ainsi que plusieurs autres non moins inconfortables. Et alors je mettrai ça en relation avec une formule de Jacques Maritain que j'aime beaucoup dans son livre « Primauté du spirituel » pour ceux qui le connaissent, où il s'interroge sur l'appel à la sainteté dans ce que saint Thomas appelait la vie mixte, justement la vie qui unit à la fois action et contemplation. Et il avait cette formule qui, pour moi, à la sainte Baume, résonne d'une manière toute particulière. Il écrivait qu'il faut éviter le péril de ne chercher la sainteté que au désert et le péril d'oublier la nécessité du désert pour la sainteté. Et il le disait pour parler d'une sainteté en plein monde. C'est-à-dire avec cette idée que celui qui veut agir dans le monde, et ça rejoint tout à fait l'intitulé de cette table ronde, eh bien, il y a des moments où il doit se retirer du monde pour se mettre face à face avec Dieu, dans le secret de la prière, de l'oraison, de la contemplation, mais pour être nourri d'une inspiration qui va l'envoyer dans le monde. Et voilà, la Sainte Baume et l'université d'été comme celle-là, pour moi, est assez symbolique de cela. On a besoin de se retirer dans la grotte, comme Marie-Madeleine, pour prier le Seigneur dans le secret, hein, mais pour être envoyé avec une inspiration qui fait descendre le ciel sur la terre dans toutes les actions que nous menons. Et cette unité, vous voyez, entre action et contemplation, c'est la clé de la vocation à la sainteté proprement laïque, mais ça peut être aussi celle du religieux apostolique, hein, bien sûr. Et donc la frontière entre les vocations à ce moment-là n'est plus une frontière rigide, hein, mais une sorte de porosité mutuelle entre les vocations. Et ça, dans l'Église du XXe siècle, voilà, vous avez rappelé l'appel à une sainteté laïque du Concile Vatican II, mais c'est aussi une certaine transformation du regard du clerc sur le monde qui se joue en même temps. Ça me paraît vraiment spécifique à l'appel ecclésial aujourd'hui, aussi bien pour les religieux que pour les laïcs, même si ici, je me placerai du point de vue davantage du laïc dans le monde.
Merci beaucoup. Heureusement que la sainteté n'est pas complètement inaccessible, sinon en effet, ça rend difficile la transformation justement de ce monde du travail, même si dans l'agir chrétien, il y aura la part « on doit agir pour travailler », première chose, comme chrétien. Et puis, face aux imperfections, ça va toucher à ma deuxième question, du coup, face aux imperfections de ce monde du travail, des choses qu'il faut justement faire progresser, on en vient à cette question de savoir s'il faut, comme le proposait le thème, renverser ou réformer. Pour situer les deux termes, ne sont pas tout à fait dans la même histoire. D'une certaine manière, le mot réformer est sans doute beaucoup plus ecclésial, nous renvoie beaucoup plus aux mouvements qui sont internes à l'Église, qui découlent d'une prédication, notamment des sujets que je connais mieux. Renverser, sans doute, on se rapproche du vocabulaire révolutionnaire, de la table qui renverse, et où on voit quelque chose de plus radical sans doute. Est-ce que pour autant c'est exclu de l'agir chrétien, par exemple, ou est-ce que, au contraire, un chrétien peut se poser la question, cette alternative, face notamment à des choses qui seraient vraiment non seulement imparfaites, mais contradictoires avec le bien commun, avec le bien qu'il faut réaliser. Je ne sais pas s'il y en a un qui veut répondre en premier, je vois Jean-Thomas après. Partir du point de vue ecclésial, peut-être.
Oui. Alors, je commencerai par un pas de côté. En ecclésiologie, justement, il y a quelque chose qui a été bien vu au XXe siècle par, à peu près à la même période d'ailleurs, par un théologien dominicain, Yves Congar, et par un romancier, Bernanos, à savoir, mais en parlant de l'Église en tant que telle, que on ne réforme l'Église. D'ailleurs, je préfère parler de réforme dans l'Église que de réformer l'Église, parce que en elle-même et en ses principes constitutifs, elle n'est pas modifiable parce qu'elle est issue de la volonté du Christ. Mais quand on parle de réforme dans l'Église, et Congar et Bernanos, notamment en réfléchissant à partir de la personnalité de Luther, expliquent que on ne peut le faire que, d'une part, par la sainteté, et puis depuis l'intérieur. Que dès lors qu'on se situe dans une forme d'extériorité ou de surplomb par rapport à ce que l'on prétend réformer, eh bien, on est condamné, d'une certaine manière, à la dérive des continents par rapport à l'Église, pour ce qui est du point de vue ecclésiologique, et puis à, au fond, une forme de vanité et de révolte qui n'est plus chrétienne. Alors, la différence, évidemment, entre l'Église et le monde du travail ou la société, c'est que l'Église, elle est constitutivement sainte, ce qui n'est pas nécessairement la société et le monde du travail. Mais je pense que là où l'analogie joue quand même, c'est que pour un chrétien, il n'y a pas la possibilité de faire sécession par rapport au monde, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas d'extériorité par rapport au monde. On a tendance à se situer comme chrétien dans un vis-à-vis à l'égard du monde, alors qu'on est en plein dedans, y compris dans son aspect pécheur, et que donc, d'une certaine manière, c'est de toute façon de l'intérieur que s'il y a quelque chose à réformer, on le fera. Et par mode de sympathie, si je puis dire, pour le monde, il s'agit d'avoir un regard bienveillant sur les réalités du monde, quand bien même elles sont à plein d'égards insatisfaisantes. Ça, c'est la première chose, et de telle sorte que, évidemment, j'incline plus du côté de la réforme que de renverser. Et par ailleurs, il y a une deuxième chose, c'est que en théologie morale chrétienne, une fin bonne ne justifie jamais des moyens mauvais. La fin ne justifie jamais les moyens, contrairement à ce que dit l'adage commun. On ne peut pas, au motif que l'on poursuit une fin bonne, utiliser des moyens mauvais. Et en l'occurrence, si par renversement on suppose un moyen violent, on entre dans un moyen qui, de soi, est anti-évangélique, et quelle que soit la fin poursuivie, eh bien, le chrétien ne peut pas s'en prévaloir. C'est parfois un peu frustrant, parce que on se dit que à un moment il faut donner un grand coup de poing sur la table et que la coupe est pleine, la coupe est débordante et qu'à un moment il faut y aller et qu'on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Ben oui, mais le problème c'est que du point de vue de l'Évangile, même un œuf cassé, c'est déjà trop.
Ce sera sans doute des réactions, mais je vais sans doute demander à Emmanuel d'abord de débaucher une avant qu'on passe à vous, Bernard.
Alors, quand j'ai vu cette question, j'ai eu le même réflexe qu'avec la question du travail dans la Bible, de voir qu'il y a des textes qui paraissent apparemment contradictoires. Donc, pour les partisans du renversé, vous allez prendre le Magnificat, ils renversent les puissants et leur trône. Vous prenez Jésus qui chasse les marchands du temple, etc. Donc voilà, je me dis parfois, si j'étais un lecteur un peu djihadiste de l'Évangile et de la Bible, je trouverais les bons versets qu'il me faut pour justifier la violence dans tous les cas, etc. Et puis si je suis un pacifiste qui lit la Bible, alors je vais prendre plutôt les passages du genre « Remets ton épée dans le fourreau, Jésus au jardin des Oliviers », ou bien « Ne cherchez pas à séparer le bon grain et livrer maintenant, c'est l'affaire du Père dans le royaume, c'est pas votre affaire à vous », etc. Hein, donc on voit très bien qu'il y a des textes qui paraissent aller en sens contraire si on les prend littéralement et en les isolant les uns des autres. Voilà. En fait, je pense que l'enseignement qu'on peut tirer de cela, c'est que il faut articuler, moi je dirais les choses ainsi, une certaine violence spirituelle lorsque le bien et le mal sont vraiment en jeu de manière radicale et une manière d'agir qui ne soit pas violente, comme ça vient d'être dit, parce qu'effectivement, l'usage de certains moyens pervertit les fins que l'on vise. Et ça alors, dans l'action politique contemporaine au XXe siècle, c'est vraiment un point cardinal que beaucoup d'observateurs ont vu. Voilà, je citais tout à l'heure Simone Veil, Jacques Maritain, ils ont été témoins de cela. Si on prend la guerre d'Espagne, par exemple, aussi bien d'un côté que de l'autre, la barbarie a été telle que pour chacun, les fins ont été perverties par les moyens. Qu'on soit du côté franquiste, du côté révolutionnaire, du côté chrétien ou athée, il y a eu la même barbarie partagée de manière horrible. Et c'est des gens de camps opposés qui s'en sont aperçus. Je renvoie à la fameuse lettre de Simone Veil à Georges Bernanos après la guerre, où elle lui dit « Vous étiez du côté franquiste, moi du côté républicain, mais vous avez vécu la même chose. Et vous êtes le seul à avoir résisté à la barbarie. Et parmi mes amis, aucun n'a pu le faire. » Donc voilà, quand on réfléchit à des situations comme ça, cette question de la fin des moyens devient absolument capitale et peut être transposable à quantité de situations. Donc je dirais volontiers que moi je serais partisan du renversé au niveau de certains principes de pensée, de certaines valeurs fondamentales à défendre, mais dans le mode d'action que ça inspire, la non-violence évangélique est fondamentale parce que l'amour du prochain doit aussi se vérifier à la manière d'agir en respectant la dignité des personnes, en étant attentif au fait que chaque personne a une dignité absolue et qu'elle peut pas être transformée soit en un ennemi diabolique, soit en quelque chose qu'il faut détruire, etc. Donc ça me paraît très important, cette réflexion qu'on trouve souvent chez certains saints du XXe siècle, que l'homme est toujours à l'image de Dieu, même le criminel. Hein, voilà, ça va inspirer beaucoup de gens qui se sont senti la vocation d'aller vers les plus pauvres, je pense au Père Lataste ou à d'autres, etc. Donc une fois qu'on a dit ça, évidemment, la question de la logique de l'action dans toutes les circonstances se pose de telle ou telle manière. Il y a ajusté en permanence le discernement qui doit être à l'œuvre. Disons qu'une base continue pour moi de la réflexion, ça serait celle qui reprendrait souvent une formule que le pape François maintenant affectionne, vous le savez, et qui a été souvent reprise, quand il dit que le temps est supérieur à l'espace dans l'ordre de l'action. C'est-à-dire que quand on cherche la puissance avant tout, on cherche à conquérir des espaces, mais quand on cherche une inspiration qui s'incarne à long terme, on cherche une action qui s'inscrit dans le temps d'une inspiration qui va donner lieu à des multitudes d'acteurs qui vont s'inspirer de quelque chose qui a été transmis indirectement. Et vous savez que cette réflexion rejoint la pensée de Benoît XVI dans son fameux discours des Bernardins, si vous le relisez, lorsqu'il reprend la fameuse formule « ora et labora », il dit que la chrétienté médiévale s'est réalisée à partir du moment où le temps de la prière et le temps du travail se sont articulés, mais sur un temps très long, qui a été celui des monastères bénédictins qui ont défriché l'Europe, qui ont créé la chrétienté sans le savoir, en inspirant, à travers la formation d'une société inspirée par le christianisme, des structures qui ont été porteuses sur des siècles d'une inspiration. Et donc cette idée que l'action chrétienne se diffuse par capillarité, par des corps intermédiaires qui sont établis dans le temps et qui, de génération en génération, vont impulser des sources inspiratrices de l'action. Au lieu que le modèle de l'action révolutionnaire, c'est quelque chose d'immédiat, de soudain, qui est censé mettre le royaume de Dieu sur la terre du jour au lendemain. Et ça, c'est évident que ça ne marche pas et que ça ne marchera jamais. Hein, parce que la transformation du monde passe par la transformation des cœurs. Ça ne passe pas par une prise de pouvoir pure et simple qui, d'un coup de baguette magique, ferait que le mal se renverse en bien, etc. Donc cette idée de la lenteur du grain qui pousse par rapport à l'action violente qui prétend réaliser le bien illico presto, ça me paraît dans l'action évangélique quelque chose de fondamental.
Merci beaucoup, on voit se dégager quelque chose, en même temps ça pose la question, à mon avis il faudra peut-être y revenir, de l'interprétation de ce passage de Jésus qui chasse les marchands du temple et du moyen qu'il utilise, qui renverse les tables et il utilise un air de bœuf. Bon, je prépare les questions pour après, sans doute. Bernard, dans le concret, de ce que vous voyez plus, qu'est-ce que vous pouvez nous...
Déjà, sur ce qui a été dit, je suis d'accord, vraiment d'accord avec ce qui a été dit, avec, je pense que je vais apporter une nuance assez forte sur un point. Alors déjà, moi, naturellement, quand on m'a donné le thème, moi, renverser, je ne l'ai pas du tout pris en termes de révolution. C'est-à-dire que je ne l'ai pas pris en... J'ai fait le même raisonnement en disant qu'effectivement... si on parle d'entreprise, c'est que l'objectif doit être renversant. Donc, je vais plutôt aller sur ce côté-là. Moi, je suis né dans un monde chrétien. Je ne suis pas né dans un monde chrétien, justement. C'est un peu mon erreur à la base et ma vision. C'est que je pensais être né dans un monde chrétien et j'ai été un chrétien fade, voire j'ai perdu la foi. Parce que, bon, franchement, dessiner après la messe et me nourrir de rien, franchement, j'ai pas trouvé grand-chose. Mon chemin a fait que, et ma femme m'a fait beaucoup pour que ça soit comme ça, j'ai pas eu le choix, les Dominicains la connaissent bien, c'était ça, donc c'est un formidable chemin. Et donc moi aujourd'hui, ce que je considère aujourd'hui, c'est qu'il faut effectivement renverser la table dans les ambitions qu'on a, que l'on a. Moi je trouve qu'aujourd'hui, franchement, on a reçu un cadeau merveilleux, moi je connais pas suffisamment les différents temps d'avant, je dis juste que les temps d'aujourd'hui, c'est les temps rapides. L'Église, elle doit s'adapter, les chrétiens doivent s'adapter au temps d'aujourd'hui. Je partage complètement ce que vous avez dit sur les temps des bénédictins et des choses comme ça, mais c'était les temps des bénédictins. Aujourd'hui, on doit avoir une ambition qui est forte. On doit une ambition, on a reçu un cadeau, on se doit de le donner. Chacun avec son petit sujet, et c'est vrai dans l'entreprise, c'est vrai à côté. Aujourd'hui, avec les moyens techniques que l'on a, on pourrait se dire, on peut proposer la rencontre avec Dieu à n'importe quelle personne dans le monde, dans l'entreprise. Voilà. Les musulmans ont décidé de le faire, les évangéliques ont décidé de le faire, les catholiques ont décidé de ne pas le faire. Donc l'ambition, elle doit être très forte. Et je souscris complètement à la fin, c'est que la réforme, elle est dans l'action. C'est-à-dire que ce qu'on doit faire avec ça, c'est qu'il faut réformer les choses et il faut le faire. Et le deuxième point, moi, qui m'a étonné sur des projets que j'ai poussés, sur lesquels on m'a répondu « t'es orgueilleux », l'orgueil est le plus gros des péchés qui amène à tout le reste. Enfin voilà, t'es orgueilleux, les curés vont s'y cramer, le culte de la personnalité, des choses comme ça. Ben non. Moi j'aime beaucoup Don Bosco. Don Bosco, on lui a dit, il a reçu en songe, tu vas changer le monde, enfin tu vas tout changer. En fait, non, il faut pas avoir peur de l'orgueil. Là, nos prêtres, nos accompagnants, ils sont là pour ça. Mais il faut avoir une ambition qui est très très forte sur le sujet. Et il faut être très humble. Il faut pas juger les gens et les façons de le faire. Mais par contre, étape par étape et méthodiquement, il faut avancer. Parce qu'on a reçu un cadeau. Et moi, je considère que les temps qu'on a aujourd'hui fait que c'est pas les temps d'il y a 30, 50 ans ou 70 ans. Et encore, on pouvait discuter de ce que c'était la chrétienté et la vraie foi à ces époques. Enfin, comme j'en parle avec mes parents, mes grands-parents, il y a d'autres débats qu'on pourrait avoir. Mais donc, oui, moi, je pense qu'il faut renverser la table sur ce sujet-là, être ce qu'on est, être fier, enfin, arrêter un petit peu de donner le sujet. Enfin, la claque et on la prend dans notre sens, mais voilà, enfin, il faut un peu se battre quand même dans nos façons de faire. Et dans l'entreprise, il faut le faire. Et dans l'entreprise, on a des conflits, on a des choses comme ça. Moi, j'ai eu à prendre des positions sur une femme harcelée, sur un dirigeant qui volait. Bah, qu'est-ce que vous faites ? Moi, j'avais 30 ans, j'avais 4 garçons, je suis le seul salaire de la maison. Qu'est-ce que vous faites ? Donc vous avez des positions à prendre dans l'entreprise. Je juge pas ceux qui prennent ou prennent pas, hein, c'est pas mon sujet. Moi j'ai pris dans le choix-là de dénoncer la situation et de me faire licencier. Et on m'a posé une question qui était vachement intéressante d'ailleurs. Pourquoi t'as pris cette décision et tu savais que tu prenais le risque d'être licencié. Lui il est toujours là dans l'entreprise. Il m'a dit mais et puis personne t'a suivi. Mais je lui dis mais c'est normal. Moi j'en veux à personne dans l'entreprise qui m'ont pas suivi. Parce qu'ils ne sont pas libres. C'est des employés libre-service, ils ont besoin de leur boulot, ils ont des choses comme ça. Moi, j'ai la chance d'avoir été doté de confiance en moi, d'un savoir, et puis je pense d'une foi chrétienne qui me dit, de toute façon, moi, ce qui m'importe, c'est que c'est pas l'intérêt de l'entreprise, c'est un conflit, et je vais le faire. Et celui qui l'aurait pas fait, c'était peut-être très bien aussi. Mais en tout cas, il faut agir en conscience sur un certain nombre de sujets. Donc moi, c'est oui, on renverse la table, parce que je pense que les temps d'aujourd'hui, c'est un temps, il faut renverser la table. C'est pas un temps, voilà. Maintenant, dans la façon de le faire, je souscris complètement. Voilà, on n'est pas christique dans tous les cas, on n'est pas des chevaliers à pourfendre un certain nombre de choses. Par contre, crantant les choses. Et on peut le faire dans plein de petites choses. Moi, je vais donner un exemple que je fais régulièrement. Je ferai une petite aparté dessus parce que c'est un truc qui me tient à cœur. Moi, quand je fais un séminaire, quand c'est moi qui l'organise, quand c'est moi qui fais le séminaire, systématiquement, j'amène toutes les personnes de nos séminaires dans une église. Systématiquement. Parce que, d'abord, c'est notre histoire, c'est la France, et puis, c'est une façon de présenter les choses. Je t'amène à un petit sujet, c'est juste une aparté. C'est bon sang, revenons aux vitraux figuratifs. Parce que c'est génial quand vous amenez des gens dans l'église de discuter sur les vitraux d'un certain nombre de choses. Mais chaque action, voilà, chacun est libre. Moi, j'évangélise pas, dans le sujet, je présente les choses, des choses comme ça, et vous générez des discussions et vous générez un certain nombre de choses qui sont assez fabuleuses en fait en termes de fonctionnement. Donc n'ayons pas peur. On me dit mais tu vas les amener dans les églises. Qu'est-ce que va dire la CGT? Je veux dire, jamais dans les églises. C'est une église, c'est un patrimoine français, c'est notre histoire, c'est beau. Et la CGT trouve ça vachement bien. Voilà. Donc voilà. Donc à des moments, on se met des fins. Moi, le message qu'il y a derrière parfois, c'est que je pense que nous-mêmes, si je peux me permettre beaucoup dans l'éclair, il y a une espèce de frein qui se met en place. On veut se protéger justement contre les abus qu'il y a eu à certains moments, à certains trucs. C'est parce que on a eu la guerre d'Espagne, parce qu'on a eu un certain nombre de choses. On risque d'eux. Ah ben non, là ça a besoin d'argent, il faut lever l'argent, l'argent c'est pas bien. Si c'est bien, je veux dire, franchement c'est bien. Si on le donc je pense qu'il faut vraiment être un peu moderne là-dessus, en action. Enfin voilà, moi je trouve qu'on a un temps qui est génial, et en plus on a un temps qui est génial parce que les gens, quand on discute avec eux, ils ont besoin, ils cherchent. Donc on a un terreau qui est moins anticlérical qu'il y a 20 ou 30 ans. On a d'autres sujets qui deviennent compliqués pour les catholiques en entreprise, qui sont liés à des sujets de l'inclusion, à des sujets militants en entreprise, enfin, on va dire de l'arrivée de l'individualisme à tout craint dans l'entreprise, qui attaque le corps social d'une entreprise. Donc ça devient très compliqué pour les catholiques. Donc on a une autre forme qui est compliquée, mais on a un terreau qui est génial. Donc moi, la seule responsabilité que je donne, c'est, ouais, en tout cas, chacun, dans l'intention, renverse sur la table. Ouais, c'est tellement, tellement important. Et dans la forme, oui, soyons humbles. Moi, je demande pas cette action que j'ai faite de prendre la décision. Je sais pas si elle était bonne ou pas, parce que j'étais un peu dans la merde derrière et ma femme n'était pas sereine. Je dis pas que c'est la bonne. Hein, c'est pas du tout ce que je dis. Par contre, je l'ai fait vraiment dans ce milieu-là parce que c'est mon travail. C'est juste parce que c'est mon travail. Hein, c'est mon travail que l'équité et la justice et les gens soient honnêtes dans une entreprise. Et si un dirigeant l'est pas, moi, je le traite.
On est au cœur du sujet, peut-être l'un de vous deux qui avait parlé d'abord de réagir, juste sur l'une ou l'autre chose.
Peut-être pour abonder dans le sens de l'ambition et de la magnanimité quant aux moyens, il faut qu'ils soient évangéliques, mais en revanche, il faut viser grand. Il y a parfois une logique de patronage dans l'Église catholique, c'est-à-dire que sous prétexte de faire humble, on va viser petit, on va viser médiocre, et en comptant sur la bienveillance et la charité des gens en face. C'est à mon sens assez destructeur. J'y pensais là au moment de la polémique sur l'ouverture de la célébration d'ouverture des Jeux Olympiques. Que la chose en elle-même soit scandaleuse, très bien, etc. Je l'ai dit, je l'ai écrit, bon, très bien. La question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui des gens dans l'Église qui auraient pu faire aussi bien techniquement, artistiquement, esthétiquement, etc., que les gens qui ont fait ce spectacle. Ça m'a fasciné dans les réactions de certains. Parce que au fond, ils ont tellement l'habitude, on a tellement l'habitude, je m'inclus dedans, de faire avec des petits moyens, qu'on ne se pose même pas la question de, mais est-ce qu'on aurait pu proposer autre chose avec, ça c'est un, mais c'est mon grand cheval de bataille, mais le fait que on laisse des positions à d'autres. On abandonne des positions à d'autres dans le champ de la pensée, dans le champ de la culture, dans le champ économique, et l'on s'étonne ensuite qu'il y ait des gens qui travaillent, qui ont des idées, et qui ont des idées qui ne sont pas les nôtres et qui sont anti-évangéliques. Ben oui, mais si nous, on ne se donne pas les moyens d'occuper ces positions-là, évidemment avec toute l'humilité requise, avec toute la charité évangélique requise, mais de les occuper, de travailler, de faire des choix difficiles parfois en termes financiers pour occuper ces positions-là, alors en effet on ne peut pas vraiment arriver ensuite et se plaindre et pleurer parce que d'autres font autre chose.
Juste un mot pour prolonger, c'est que j'irai volontiers dans le même sens pour dire que souvent les chrétiens sont plus habitués à vouloir lutter contre le mal qu'à créer du bien. Là, c'est un réflexe assez fréquent quand même, y compris dans les milieux qui veulent le plus agir. C'est-à-dire qu'on agit négativement, il faut avoir un ennemi pour agir plutôt que créer du bien par soi-même, parce que le Seigneur nous demande de créer du bien là où on est. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important dans les réflexes mentaux et spirituels, je trouve, aujourd'hui, à discerner et à convertir, il me semble.
Merci beaucoup. Une petite dernière question avant de peut-être laisser un petit peu de place à des questions qui viendraient de l'Assemblée, des questions courtes. Peut-être, est-ce qu'il y a un choc en retour sur l'Église quand on veut innover dans l'entreprise, quand justement le monde laïque, quel est le, Quel renvoi ça peut donner justement sur l'Église, sur des changements à faire, notamment dans l'Église, ou peut-être dans des revendications parfois qui se présentent à telle ou telle place. Je ne sais pas s'il y en a un qui veut.
Quand ça hésite, c'est que la question ne doit pas être facile.
Je vois à peu près vers où vous
allez. Oui. Il est certain que je pense que les questions du temps d'aujourd'hui et qu'on a sur lesquelles les chrétiens sont confrontés, que ce soit en entreprise ou en chose, c'est une position assez profonde chez moi, que oui, il y a énormément de réformes, voire de révolutions à faire dans l'Église. C'est-à-dire que et pour plusieurs raisons, c'est que je souscris complètement que l'Église s'inscrit dans un temps long, mais je pense que c'est une de ses forces. Simplement, ce que je disais tout à l'heure, elle doit gérer des temps courts. Et ses brebis et ses âmes, elles sont dans des temps courts. Et je pense que l'Église doit s'adapter à ça, ce qu'elle ne fait pas aujourd'hui. Je prends des choses qui sont toutes simples, on en a discuté souvent, des choses comme ça. C'est personnel, ce que je dis, ça n'engage que moi, et des choses comme ça.
L'Inquisition ne fera rien.
Mais je ne trouve plus acceptable, par exemple, aujourd'hui, dans un monde d'aujourd'hui, de communication, sur lequel les laïcs sont un des fers de lance, parce que j'ai lu un truc où j'ai lu sa première fois, on l'avait jamais dit, c'est que l'Église c'est aussi les laïcs, enfin c'est surtout les laïcs en fait derrière, donc l'Église c'est un peu nous. Oui, mais enfin on l'avait jamais dit. Moi l'Église, je suis désolé, j'étais pas très éduqué là-dedans. Moi l'Église c'était avant tout les clercs. Et ça peut paraître bête, mais bon, quand on n'a pas d'éducation, pourtant je viens d'un milieu chrétien, on a des. Et en fait aujourd'hui par exemple, mais c'est des choses toutes simples. Pour moi un évêque par exemple aujourd'hui ne peut plus faire comme ils font aujourd'hui, de bouger nos curés sans qu'on nous le dise, sans qu'on comprenne quelque chose ou des choses comme ça. En fait, il y a plein de choses dans la réforme. Aujourd'hui, il faut qu'ils prennent les temps. L'Église doit prendre les temps de nos hommes, la considération de nos hommes, et on doit prendre d'abord la considération des curés en tant que tel. Mais il y a plein de sujets aujourd'hui. Il faut que l'Église se pose un certain nombre de sujets. Alors, on tourne autour du tour de ce que font les laïcs, mais également dans leurs ambitions. Et dans les moyens qui sont donnés. Je veux dire, quand un de mes fils revient chez moi et me dit je suis allé dans une paroisse étudiante et le prêtre en charge de la paroisse étudiante me dit non, t'es pas de la paroisse des dominicains, t'es étudiant, donc c'est la paroisse étudiant. Oui, il faut qu'on change des choses. Bah oui, mon fils, il a toujours été dans la paroisse des dominicains. Bon, il peut rien, c'est comme ça. Mais voilà. Donc je pense qu'il y a une vraie prise de conscience à faire dans notre façon de faire. Quand j'étais chef de groupe, scout, j'avais la chance d'avoir trois aumôniers. On était dominicains. Trois aumôniers dominicains. Et d'autres troupes n'avaient pas d'aumôniers. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on m'a pris mes aumôniers. En fait, c'est une erreur complète. À partir du moment où on affaiblit ce qui est fort, on affaiblit tout le monde. Il faut se poser la question pourquoi un groupe a trois aumôniers et pourquoi un groupe en a pas. Et donc, il faut construire le sujet différent pour que voilà. Et donc, en fait, les clercs et les laïcs ont un rôle fondamental là-dedans. C'est comment on travaille un peu différemment. Et donc, moi, je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui un certain nombre de choses. Encore une fois, ça c'est hors enregistrement comme ça, mais une conférence nationale des évêques, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Rien. Parce que chaque évêque derrière est maître chez lui. Donc c'est pas parce qu'un porte-parole dit quelque chose que derrière, dans un évêché, il va se passer. Moi je vois l'inverse, j'ai la chance ou la malchance de travailler à plusieurs endroits et d'aller dans des messes qui sont différentes avec des évêques qui disent des choses différentes. Ok. Mais voilà. Donc j'ai pas la solution. Mais fondamentalement, il faut faire quelque chose.
Oui, je viens prolonger. Il me semble que globalement, on n'est pas sorti de l'opposition cléricalisme, anticléricalisme, et qui se nourrissent mutuellement de chaque côté dans une certaine culture ecclésiale, mais qui rejaillit sur les problèmes de laïcité, etc. Moi, je suis frappé comme vous du fait que il y a un manque de va-et-vient constant entre tous les niveaux hiérarchiques dans l'Église. Juste une chose qui me revient à l'esprit. J'ai comme ancien étudiant quelqu'un qui s'appelle Jean-Paul Vesco, donc chacun connaît dans l'ordre dominicain puisqu'il est maintenant archevêque d'Alger. J'ai eu l'occasion à quelques années, à l'occasion d'une ordination en Tunisie, de le revoir et de lui partager des soucis que j'avais au plan ecclésial.
Et j'ai été beaucoup touché par une formule qu'il m'a dite, parce que comme il était devenu évêque, moi j'étais monseigneur, je n'osais plus dire Jean-Paul, comme quand je l'ai eu comme étudiant. Et il me dit, mais Emmanuel, tu as été mon professeur, tu restes mon professeur jusqu'au bout, et sache que je suis un frère avant d'être un père. Et cette formule m'a énormément touché, parce que dans les rapports que j'ai avec d'autres autorités ecclésiales, jamais j'ai une parole de ce genre. Voilà. Et ça m'a énormément touché de faire sentir que dans l'Église, quels que soient les niveaux de responsabilité, de fonction, c'est la fraternité qui doit unir les cœurs avant que les fonctions hiérarchisent, voilà, en termes un peu verticaux, etc. Et ça rejoint un peu votre remarque sur le fait que, voilà, on a souvent l'impression que nos responsables sont tellement loin, tellement haut, qu'on n'arrive pas à pouvoir parler sur un pied d'égalité lorsque ce sont des questions qui nous concernent directement au premier chef, au plan professionnel ou au plan sociétal, etc. On a autant de droits à la parole qu'eux. Après, on n'a pas le pouvoir de décision qu'ils ont eux, mais ils ont le devoir d'écouter ce qu'on a à leur dire. Et on sent trop souvent qu'on n'arrive pas à être écouté. Et ça, c'est une vraie question, voilà, qui rejoint plein de débats ecclésiaux, évidemment, mais qui, moi, à mon niveau d'universitaire dans l'université catholique, je peux vous dire qu'en 30 ans, j'ai beaucoup à dire là-dessus. Voilà, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Voilà.
J'abonde dans le sens de ce qui a été dit, notamment quant à la répartition des tâches et des compétences. Je veux dire par là que, autant, et ça n'est pas très politiquement correct ou ecclésiastiquement correct de le dire, je suis assez sceptique quand on demande à une assemblée de laïcs de prendre position sur des questions théologiques dont ils n'ont pas beaucoup d'idées, parce que tout simplement ils n'ont pas reçu une formation théologique qui leur permette d'y répondre de manière pertinente. Et donc souvent je trouve qu'il y a une débauche d'énergie et d'ailleurs d'argent un peu scandaleuse à faire débattre de choses qui d'ailleurs ne sont pas forcément mises au débat. En revanche, je trouve assez surprenant que l'on n'écoute pas davantage et que l'on ne collabore pas davantage avec des laïcs dans des domaines où ils sont de toute évidence plus compétents et désireux du reste de partager leurs compétences avec les clercs. En effet, alors je ne suis pas évêque et Dieu m'en préserve, mais enfin en tout cas pour l'instant, je prie pour que ça en reste ainsi. Je suis étonné qu'un évêque passe autant de temps dans des réunions dans lesquelles il n'a pas forcément grand-chose à dire ni à faire. Et où des laïcs extrêmement compétents pourraient aussi bien faire le travail, ce qui n'exclut pas par ailleurs une fonction de contrôle et une fonction de direction qui sont de l'ordre de la charge épiscopale, du ministère épiscopal qui a parmi ses tria munera, pour le dire en latin de manière pédante, le gouvernement, mais qu'il s'occupe des finances, qu'il s'occupe des fleurs, qu'il s'occupe de la liturgie, qu'il s'occupe, enfin la liturgie c'est peut-être davantage dans son champ d'action, mais enfin il y a tout un tas de choses où le peuple chrétien est en attente d'un pasteur qui enseigne, qui gouverne et qui sanctifie, et pendant ce temps-là le pasteur est en train de faire mille autres choses que des laïcs font 10 fois mieux, 10 fois plus rapidement que lui, et avec en plus une demande de la part des laïcs, non seulement sous le rapport d'une plus grande participation aux décisions dans l'Église, mais tout simplement parce qu'un certain nombre de laïcs, en effet, demandent à travailler dans des domaines et sur des objets qui sont plus directement liés à leur foi, et sont prêts, dans un certain nombre de cas, et c'est admirable, à faire des sacrifices financiers, parce qu'en règle générale, on n'est pas très bien payé dans l'Église, il faut bien dire ce qui est, mais c'est aussi une question, il faudrait davantage payer les compétences dans l'Église, mais il y a un certain nombre de laïcs qui sont prêts à mettre leurs compétences au service de l'Église et qui ne le font pas parce qu'au fond ils ont l'impression que ils vont être broyés par le dernier État soviétique au monde, à savoir l'Église de France ou l'Église tout court.